Salut à toi, ô mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien,
salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien.
Salut à tous et à toutes, vous êtes bien sur la rage dans l'émission Pas de frontières pour la rage. Et aujourd'hui, nous sommes avec Clément qui est en Australie. Salut Clément.
Salut les gars.
Ça va?
Ça va très bien, impeccable. Il est près de 21h ici en Australie. Pas trop mal.
Ça marche. Donc t'as quel âge, Clément?
Alors moi j'ai 24 ans.
Ok.
Je viens du Pays Basque.
Ça marche. Et t'as fait quoi comme études?
Alors, j'ai fait après un bac général, je suis allé à l'IUT de Tournord pour faire des études en carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle.
Et où est-ce que tu es en ce moment?
Alors en ce moment, je suis au sud-ouest de l'Australie, vraiment tout au sud-ouest, qui est dans la ville de Perth, qui est une ville assez grosse qui compte 2-3 millions d'habitants.
Et tu y allais pour quoi faire?
Alors, je me balade en Australie depuis 10 mois maintenant, donc je suis arrivé au sud-est et j'ai fait toute la côte est vers le nord, et j'ai fait toute la côte, j'ai suivi toute la route en fait qui monte tout au nord d'Australie et après qui redescend vers l'ouest. Donc c'était une partie du road trip et c'était un peu là où cette ville de Perth, c'est un peu là où je me pose depuis 3 semaines maintenant pour essayer de faire un point et voir où je vais après.
T'es surtout là-bas pour apprécier le climat, donc pas pour travailler ou tes études.
Alors en Australie, j'y suis pas pour les études, ça c'est sûr. J'y suis pour le voyage. J'adore le voyage. C'est pas le premier voyage que je fais, donc c'était une destination où je voulais toujours aller. J'ai toujours souhaité y aller, donc j'ai eu l'occasion d'y aller. J'y suis depuis maintenant 10 mois et j'y suis pas pour le climat en lui-même, même s'il est franchement agréable. Mais j'y suis pour l'aventure et pour la découverte.
Justement, on abordait la question après. Qu'est-ce que t'aimes dans le voyage? Comment ça se fait que t'es tombé amoureux du voyage?
Alors, ça a commencé quand je suis allé en Nouvelle-Zélande. Donc, c'était en septembre 2013. Donc, ça va faire plus de 3 ans maintenant. Donc, c'est là où j'ai fait mon premier voyage d'un an dans le cadre d'un visa vacances-travail qui permet à des jeunes de 18 à 30 ans d'aller dans un pays pendant un an et de travailler et de voyager. Et le mode de vie m'a tout de suite plu, en fait. C'est, surtout les pays de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande sont des pays qui sont issus des colonies britanniques, donc de l'Angleterre. Donc tu travailles à la semaine, tu es payé à la semaine. C'est beaucoup moins de paperasse, beaucoup moins de choses comme ça qu'on a en France où c'est un peu plus compliqué d'avoir un boulot. Tu y vas pour plusieurs mois, alors qu'ici, tu bosses 2 semaines, tu bosses un mois, et hop, tu repars sur la route. Ce genre d'expérience-là qui m'ont fait aimer le voyage et la découverte de ces pays.
Et donc, toi, tu y es parti toi-même pour l'Australie ou tu es parti avec un organisme aussi comme la Nouvelle-Zélande?
Alors non, j'y suis allé moi-même. Pour la Nouvelle-Zélande aussi, hein, j'étais juste passé par un organisme pour le billet d'avion.
Ok.
Mais c'est tout. Après, le voyage en lui-même, tout était fait. J'ai tout fait moi-même, quoi. Quand je suis arrivé sur place, j'avais nulle part où aller vraiment, si ce n'est une réservation dans une auberge jeunesse, quoi. Après, c'est de la découverte vraiment sur place. Tu te débrouilles comme tu peux. Tu rencontres des personnes qui te donnent des coups de main par-ci par-là, mais j'avais personne sur place qui était prêt à me retrouver et à m'aider.
En gros, t'es un peu sans filet de sécurité si jamais il t'arrive quelque chose.
Totalement. C'est-à-dire que s'il y a un problème majeur, à part évidemment tout ce qui existe comme le consulat et l'ambassade française qui existe dans tous ces pays-là, et mon assurance, parce que j'ai une assurance de voyage,
ouais.
qui prendrait en charge n'importe quel gros souci qui m'arriverait. Hein. Ça peut être du simple rendez-vous chez le docteur, à l'hospitalisation ou au rapatriement. Donc je suis quand même pas laissé à l'abandon venant de France, mais je me débrouille quand même en arrivant. C'est-à-dire que ouverture d'un compte en banque, téléphone, achat d'une voiture ou pas, trouver du boulot ou pas, c'est à toi de trouver une fois sur place.
Il n'y a pas de facilitateur des démarches administratives plus ou moins complexes quand tu es à l'étranger, quoi.
Non, enfin, c'est des démarches qui sont automatiquement et qui sont juste du bon sens, en fait. Par exemple, pour pouvoir travailler, il faut un numéro qu'ils appellent le tax file number qui permet à tout étranger de pouvoir travailler sur le sol australien. Donc, voilà, tu fais ta demande via Internet ou dans un des nombreux bureaux qui peut exister dans les grosses villes dans lesquelles normalement les voyageurs arrivent, comme Sydney, Melbourne, Perth ou Darwin. Il y a toujours un bureau avec des professionnels du gouvernement ou pas qui sont là pour vous aider, mais toutes ces démarches-là, en fait, c'est en regardant sur Internet, en cherchant, en essayant de travailler, en essayant de se renseigner sur des sites, sur le site du gouvernement lui-même aussi, qu'on peut essayer de trouver des solutions et qu'on trouve des solutions.
Ok, j'imagine que tu parles anglais du coup pour te débrouiller là-bas.
Oui, tout à fait. Je suis bien obligé. Ouais. Donc mon niveau d'anglais a nettement progressé depuis mon premier voyage en Nouvelle-Zélande.
Ok, donc ça marche. Et du coup, tu voyages seul ou t'es avec des amis?
Alors, je suis parti seul de France. J'avais mon meilleur ami qui était en Australie déjà, dans le même cadre d'un visa vacances-travail. Donc je l'ai retrouvé pendant 2 mois au début de mon voyage. Donc depuis le mois de début mars, je suis tout seul. J'ai travaillé, donc j'ai rencontré du monde évidemment en travaillant. Je me suis fait des amis par-ci par-là. J'ai voyagé avec quelques personnes pour 10 jours à un mois et demi. Donc voilà, je suis tout seul dans mon voyage, mais je rencontre des gens avec qui je fais un bout de route, quoi.
Et tu comptes y rester encore longtemps en Australie ou t'as bientôt fini ton voyage?
Alors, le principe du visa vacances-travail, c'est que ça dure un an. Donc je suis arrivé au mois de janvier, donc normalement mon visa se termine au mois de janvier prochain. Mais la particularité de l'Australie, c'est qu'il est possible de demander une deuxième année en travaillant 88 jours, ce qui équivaut à 3 mois dans le milieu agricole. Et donc que ce soit ramassage de fruits ou travailler dans les fermes, quoi, juste une ferme de moutons, une ferme de vaches, de légumes ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai fait ce genre de travail pour 3 mois pour pouvoir demander une deuxième année. Et c'est ce que je vais faire à la fin de ma première année de visa, faire une demande pour une seconde année et rentrer certainement l'été prochain en France.
Ok, tu parles de visa. Est-ce qu'ils sont difficiles à obtenir? Est-ce qu'il y a des conditions?
Alors, pour ce visa, donc le visa vacances-travail, une condition majeure, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Bientôt 35 ans dans le cas de l'Australie d'ailleurs, parce qu'ils viennent de changer la loi. Il sera possible d'y aller jusqu'à l'âge de 35 ans. Mais à part ça, il faut un casier judiciaire vierge ou sans aucune, ou même avec des délits mineurs qui n'auraient aucune incidence dessus. Je saurais pas vous dire quel délit, hein, mais c'est ce genre de trucs qui vont regarder. Ça, c'est pour la première année de visa. Et pour la deuxième année de visa, c'est la même chose. Toujours un casier judiciaire vierge ou avec des moindres délits. Toujours avoir entre 18 et 30 ans et avoir fait ces 88 jours de travail agricole.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale. Alors, quel morceau tu nous as choisi?
Je vous ai choisi. Donc, c'est un artiste australien qui est assez jeune. Excusez-moi que je retrouve le nom. donc c'est Chet Faker qui chante la chanson Gold.
Ok, est-ce que tu peux juste nous expliquer pourquoi tu as choisi cette musique?
C'est un artiste un peu jeune et c'est vrai que à part la radio, parce que j'ai été beaucoup sur la route, à part la radio, j'ai pas entendu beaucoup de musique. Et là, en étant sur Perth depuis trois semaines, donc j'entends beaucoup plus la radio, je sors un petit peu dans les bars et c'est ce genre d'artiste qui passe et c'est la musique qui me reste dans la tête à la fin de la soirée ou à la fin de la journée.
Ça marche, bon, on s'écoute ça tout de suite.
You gotta know, I'm feeling loved, made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling loved. You gotta know. I said, I smell in the air is a dripping rose.
You can be the one for me.
Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. Close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Hardened. With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. Close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know, I'm feeling love, made of gold. I'll never love another one.
Donc vous venez d'écouter Chet Faker Gold, j'espère que ça vous a plu, puis on va continuer ce petit interview. Quelle est l'histoire de l'Australie des aborigènes? Est-ce qu'ils sont bien intégrés à la société?
Alors, les aborigènes, ça
fait
été...
plusieurs questions.
Ouais, ça fait plusieurs questions.
Déjà, si tu peux nous rappeler l'histoire de l'Australie, c'est bien.
Alors je commence par l'histoire d'Australie.
Ouais.
Bon, c'est un peu la même chose, hein, du coup, mais... Donc l'Australie, donc c'était un territoire inconnu jusqu'au XVIIIe siècle. Hein, quand toutes les colonisations ont commencé. Donc ils sont allés en Nouvelle-Zélande, ils sont allés dans tous ces pays d'Océanie. Et ben les Britanniques, il y a eu des Britanniques, il y a eu des Hollandais, il y a eu aussi des Français qui sont arrivés en Australie. Pas tous au même moment, mais c'est les Britanniques qui l'ont
colonisé en premier.
Qui ont mis le drapeau en premier, qui ont fait en sorte que ce soit une colonie britannique. Donc après ça, ils sont tombés sur les locaux, quoi, sur les habitants de l'île, qui sont les aborigènes, qui se sont fait malheureusement massacrer, littéralement massacrer. Les aborigènes les Anglais ont été extrêmement, extrêmement durs, extrêmement violents avec la population aborigène. Et une fois qu'elle a été colonisée, la reine a envoyé en fait les bagnards, les prisonniers, on va dire toutes les personnes qu'ils ne voulaient pas garder en Angleterre, ils les ont envoyées en Australie. Donc en fait tous les blancs en fin de qu'on voit en Australie, ils sont issus de ces prisonniers et de ces bagnards qui ont été envoyés dans ce pays-là pour se banquer, voilà, démerdez-vous, essayez de survivre, vous entretuez pas et puis faites quelque chose de ce pays, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis au fur et à mesure des siècles, les aborigènes ont malheureusement été de plus en plus poussés, de plus en plus reclus, complètement on leur a enlevé leurs terres, on leur a enlevé beaucoup de leurs droits, etc., quoi.
Ça marche. Et vas-y.
Non, vas-y.
Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi le contexte de l'Australie ? C'est encore comme ça ou ça a beaucoup évolué ?
Alors, ça a quand même évolué parce que maintenant, il y a quand même des lois. Il y a quand même un gouvernement en place. Donc l'Australie est un État indépendant un pays indépendant depuis. C'était 1901 quand les pays du Commonwealth se sont, on va dire, extirpés de la monarchie britannique. Donc les pays du Commonwealth, hein, c'est ça, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada fait partie du Commonwealth, même si c'était pas une colonie. Il y a énormément de pays qui font partie du Commonwealth et qui sont détachés complètement de l'Angleterre au niveau juste pour l'indépendance, même si on va dire qu'ils rendent toujours des comptes à la reine, où ils portent toujours un certain intérêt pour la reine et le système. Le système de la monarchie en Angleterre. Et les aborigènes, eux, même s'ils sont intégrés, parce qu'ils vivent là, hein, c'est pas toujours évident. De ce que moi j'ai pu voir, en tout cas de ce que j'ai vécu, c'est qu'ils sont assez. Ce sont des communautés qui sont plus ou moins dans les terres du Nord. Souvent à l'écart. Et dans les grandes villes, malheureusement, c'est beaucoup de. Beaucoup de personnes sans domicile fixe, quoi, des SDF qui font la manche, qui malheureusement consomment beaucoup d'alcool, parce que c'était ça aussi avec l'arrivée des colonisateurs d'Angleterre, l'alcool est arrivé et ça a fait des ravages monstrueux et on le voit encore aujourd'hui. J'ai vu énormément de personnes ivres, aborigènes dans la rue à faire la manche. Ou à essayer de, oui c'est ça, faire la manche, essayer de vendre aussi quelques toiles, parce qu'ils ont quand même un art aborigène qui est assez prononcé, assez connu et reconnu maintenant. Et c'est un peu ce genre de contexte que moi j'ai pu vivre.
Et l'alcool, c'est un problème dans tout le pays ou seulement pour la population des aborigènes? Est-ce qu'il y a des blancs, enfin je mets bien des guillemets, qui ont aussi une consommation d'alcool qui est importante?
Oui, la consommation d'alcool, elle est partout pareille, hein, j'imagine. Il y a des abus partout. Hein. C'est pas notre couleur de peau qui dicte le fait qu'on soit alcoolique ou pas, ou qu'on en abuse. Ce que j'ai vu aussi énormément de blancs, hein, qui sous dans la rue, c'est surtout. En Australie, c'est quand même une terre de. Ce qu'on peut voir surtout chez les jeunes, c'est une terre de fête, quoi. C'est-à-dire que les grosses villes, c'est fait pour faire la fête. Il y a des bars partout, des boîtes de nuit. des discothèques, etc. Donc la population jeune use et abuse beaucoup d'alcool, mais dans un esprit de fête, beaucoup. Il y a de l'alcoolisme comme partout. Hein. L'alcool fait des ravages chez les, comme tu dis, entre guillemets, chez les blancs, comme chez les aborigènes. Mais les aborigènes n'en avaient pas de connaissance en fait quand l'alcool est arrivé, donc ça leur a fait des ravages encore plus énormes que sur les Européens qui, en fin de compte, eux, sont venus avec l'alcool.
Là, tu parlais des jeunes sur le fait qu'ils buvaient en soirée et tout. Justement, c'est quoi leur place aux jeunes en Australie ?
Alors, les jeunes australiens...
En sachant que l'école est vachement stricte, on va dire, entre guillemets, avec le port de l'uniforme et tout ça. Et donc, est-ce que ça a un impact sur leur vie après, en dehors de l'école, comme tu dis, pour les soirées et tout ?
Alors, le port de l'uniforme, ce qui est assez marrant là-dessus, c'est que, oui, effectivement, toutes les écoles, ou presque, j'ai jamais vu une école sans uniforme, en fait. Mais ce port de l'uniforme, c'est aussi pour essayer d'éviter les inégalités, quoi. Tout le monde a le même t-shirt, tout le monde a la même veste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas celui qui a la marque, le dernier pull de chez Nike ou de chez Adidas. Ça n'a pas sa place à l'école, du coup, quoi. C'est vraiment tout le monde a les mêmes fringues, tout le monde porte les mêmes choses. C'est sur cet aspect-là, c'est quand même, il le pousse un peu plus là-dessus que sur le fait qu'il se soit strict. Après, la fête, le monde de la nuit, je pense qu'il est assez développé comme partout, hein. C'est-à-dire qu'en France, quand on va à l'université ou quand on va dans une ville étudiante, il y a aussi autant de fêtes et autant de soirées étudiantes, d'alcool, de soirées en appartement, de comme la guinguette à Tours, ce genre de choses qui est fait dans un bon esprit, hein, dans un esprit de fête juste. Après, ce qui est impressionnant avec les jeunes, c'est que contrairement à ce qu'on a en France, ils travaillent. Chez 14-15 ans, pratiquement tous les jeunes australiens ont un boulot en fait. Okay. Pour pouvoir payer leurs études qui vont venir après. Sur l'université, ça coûte quand même extrêmement cher. Beaucoup plus cher que chez nous, en France. On va dire qu'ils se responsabilisent plus là-dessus, je trouve. Les cours finissent à 2h, 2h30. Donc, ils ont plus de temps après les cours pour aller travailler, avoir un petit job. C'est un autre système entre l'école et le travail qui marche plutôt pas mal. Ouais.
Ok, est-ce que le coût de la vie est cher pour rejoindre un peu ce que tu disais avant au niveau des jeunes et du travail?
Alors là, ça va être une comparaison avec la France, hein, évidemment. Le coût de la vie est un peu plus cher qu'en France. Même si il y a un truc qui est assez flagrant, c'est que le prix de l'essence est moins cher qu'en France, bizarrement, nettement moins cher. En Australie, ce n'est pas cher du tout. Après, si on fait une comparaison par rapport à la France, par exemple, le coût de la vie va être 10% plus cher ou 15% plus cher, mais les salaires vont être 30% à 40% plus élevés. Donc, même si le coût de la vie est plus cher qu'en France, en fin de compte, les salaires étant plus hauts, on a plus d'argent mis de côté à la fin de la semaine, quoi, à la fin du mois.
Ça marche. On va se détacher un petit peu du niveau politique et tout ça de l'Australie et se rapprocher des paysages de tout ça. Et donc, comment tu trouves déjà les paysages en Australie ?
Alors, l'Australie a une panel de paysages qui est assez impressionnante, parce que c'est une île qui est énorme, hein. Je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte. La surface de l'Australie, c'est l'Europe, par exemple. C'est-à-dire que si Perth, c'est là où je suis en souvent, c'est au Portugal. Sydney, ça va être en Europe de l'Ouest, quoi. En Europe de l'Est, pardon.
Et aussi des grandes différences au niveau du désert australien. Il y a des montagnes aussi avec de la neige. Ça fait beaucoup de paysages. Il y a la mer.
Le désert australien est énorme, hein, c'est monstrueux. C'est bien simple, hein, il y a 90% de la population qui vit sur la côte. Hein. Donc le désert australien, c'est une énorme étendue de sable rouge. de très peu de végétation ou des arbres assez épineux, ce genre de choses qui est increvable, quoi, qui mourra pas à cause de la chaleur. La diversité, elle est flagrante, surtout quand tu passes du nord au sud. Il y a à partir du moment où on passe, quand on arrive au nord de l'île, bah c'est des climats équatoriaux, donc voilà, t'es très près de l'équateur, donc c'est tropical, quoi. Il y a la saison des pluies. Donc pendant la saison des pluies, il pleut pendant 3 mois, mais il fait 35 degrés ou 40 degrés. C'est vraiment le climat et les paysages changent complètement. C'est-à-dire qu'on passe de la verdure en bord de mer au sable rouge à 800 bornes. Voilà, 800 bornes des côtes, c'est déjà le désert pour des milliers de kilomètres. Il y a des montagnes comme tu as soulevé où il y a de la neige. Il y a même une montagne en Australie, je me rappelle plus du nom, mais qui a plus de neige à l'année que la Suisse. ce qui est assez impressionnant parce que la Suisse est quand même connue pour le fait que pendant l'hiver il fait froid et il y a de la neige. Une très belle station de ski, mais voilà, cette montagne en Australie en a plus. Et on s'y attend pas, hein, mais voilà, la diversité de paysages est énorme. On passe de 45 degrés à zéro ou à moins quelque chose.
Ça fait de grandes contrastes.
Ouais, totalement, ouais.
Ça marche. Bah,
quand tu vois le point le plus au sud et le point le plus au nord, il doit y avoir 5 à 6 000 km d'écart à vol d'oiseau.
Ok. Vas-y Rémi, t'avais...
Ouais, moi c'est pour rebondir un peu sur le désert, parce que je suis en train de regarder en même temps la carte de l'Australie et je zoome en fait sur des villes qui sont en plein milieu de l'Australie. Et ce que je remarque en fait, ouais, c'est qu'ils ont des grosses pistes d'aéroports pour des villes qui sont... où il y a une quinzaine de maisons. Et
c'est des villages, c'est pas des villes dans ce cas-là.
Et bah,
c'est des pâtés.
Si tu dézoomes bien, en fait, tu vois le nom de la ville en fait qui apparaît encore, alors qu'il y a que 15 maisons. Et c'est en plein milieu.
Ouais, ouais.
Alors, je trouve ça assez étonnant. Et est-ce que j'ai fait plusieurs petites villes là comme ça où il y a une grosse piste d'atterrissage? Et des petites villes, juste à côté, une petite ville avec une quinzaine de maisons. Est-ce que tu sais pourquoi il y a ces pistes d'aéroport?
Alors les pistes d'aéroport, c'est pour tout ce qui est ravitaillement quand il y a besoin. Et aussi pour le courrier. Ah. Pas mal pour le courrier. T'as les petits avions qui passent, ils doivent passer une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Hein, et ils ramènent le courrier.
Ok.
Ok, justement... Ouais, on parlait du désert juste avant. Est-ce que tu as vu ce fameux rocher Ayers Rock, je crois qu'il s'appelle?
Alors, Ayers Rock, oui, ou aussi appelé Uluru.
Uluru, ouais.
Uluru. Non, j'y suis pas allé. Donc, c'est une des images de l'Australie. Hein. On va dire qu'il y a l'Opéra de Sydney et puis Ayers Rock. C'est vraiment un des symboles de l'Australie. C'est une terre sacrée pour les aborigènes d'ailleurs. Mais non, j'y suis pas allé parce que ça me faisait un énorme détour. Vraiment un énorme détour. Et j'avais pas le temps, j'ai pas pris le temps d'y aller. C'est possible que j'y retourne, quand je reviendrai en Australie l'année prochaine pour ma seconde année de visa.
Et par contre, excuse-moi, je te coupe.
Vas-y.
Ok, l'opéra, tu disais que tu... Enfin, t'as pas dit, mais je crois que j'ai vu que tu l'avais vu en photo, t'avais pris des photos.
Oui. Donc, l'opéra, quand je suis arrivé en Australie, donc je suis arrivé à Sydney, qui est une des villes principales de l'Australie, qui n'est pas la capitale comme tout le monde le pense. Je suis allé me balader dans la ville, hein, évidemment, en arrivant dans ce pays, t'as envie d'une chose, c'est aller te balader, voir commencer, quoi. Donc oui, la balade jusqu'à l'opéra est très sympa. Il y a des jardins partout autour. C'est un énorme bâtiment. Donc ils font des visites, hein, payantes malheureusement, mais bon, c'est normal. Il faut rentabiliser cet énorme immeuble. Et ouais, c'est assez impressionnant. Complètement en bord de mer, parce qu'il est dans le port. et beaucoup de bateaux qui font des tours pour pouvoir cet opéra sur toutes les coutures, quoi.
Tu peux peut-être en profiter pour faire une petite pub pour ton site internet, parce que moi je disais que j'avais vu la photo justement sur ton site, donc vas-y, je te laisse promouvoir ton site.
Bah ouais, carrément. Et donc j'ai créé ce site internet après mon premier voyage, hein, juste avant de partir en Australie. Je voulais vraiment, c'est pour moi, pour la famille, pour les amis, et ben aussi pour tous ceux qui sont intéressés, qui sont curieux de voir ce que ces pays proposent. J'ai voulu faire un site de voyage retraçant ce que moi j'ai vécu, les endroits où je suis allé, les endroits où j'ai mangé, les endroits où j'ai dormi, les activités que j'ai fait, les balades, les points à voir, etc. Donc j'ai aussi une partie blog qui doit avoir une quinzaine d'articles sur ce que je fais en Australie. Donc j'essaie de le mettre à jour à peu près une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois, quelque chose comme ça. Donc l'adresse c'est dessine-moi un voyage, tout attaché en minuscule, .weebly, qui est le nom de l'hébergeur, c'est ça, donc weebly.com.
De toute façon, on va le mettre en lien source sur le site internet et sur le Facebook pour que les gens puissent voir ce site et y accéder.
Tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait un grand panel de paysages en Australie, mais on connaît aussi l'Australie pour son grand panel d'espèces animalières. Est-ce que tu sais s'il y a des espèces endémiques en Australie ?
Alors, on va dire que l'espèce endémique majeure, hein, c'est quand même le kangourou. Donc, il y en a partout, absolument partout. Oui, le kangourou et le wallaby. Après, il y a aussi beaucoup de lézards, d'autres animaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Bon, il y a des koalas, voilà, c'est une espèce de boule de poils vachement sympa. Récemment, je suis allé sur une île qui est à côté de Perth, qui s'appelle Rottnest Island, où j'ai vu des cocas. Donc, c'est pas comme le Coca-Cola, mais presque. C'est un tout petit rongeur qui doit faire 20 à 35 cm de haut et qui est considéré comme l'animal le plus heureux au monde. Parce qu'il sourit. Quand on le prend en photo, il sourit.
D'accord.
Et il est vachement curieux, c'est-à-dire qu'on va se coucher, on va se poser dans l'herbe à côté de lui, et il va venir voir, il va regarder l'appareil photo, il va pour les selfies, c'est génial comme animal, c'est-à-dire qu'il va se poser à côté de toi et hop, il prend la photo, il prend la pose pour la photo. Et
ça marche. On est en train de regarder justement la photo que t'as prise avec ce petit animal super rigolo.
Est-ce que aussi il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition en Australie ? Est-ce que les autorités font quelque chose pour essayer de les préserver ?
Alors, des espèces en voie de disparition, ça pourrait être surtout des oiseaux. Après, pour les préserver, il y a quand même des parcs nationaux, il y a des réserves qui sont protégées. Donc, par exemple, tous les parcs nationaux, il est interdit d'y aller avec son chien. Dans beaucoup de parcs nationaux, ça dépend des États, parce que chaque État, on va dire, a ses
lois.
Tous les États ont des lois différentes, mais ouais, la plupart interdisent les chiens dans les parcs nationaux pour pas que ils détruisent quoi que ce soit ou qu'ils tuent un animal pour pas qu'il y ait de dégâts, quoi.
Et est-ce qu'il y a un endroit important en Australie qu'il faut absolument visiter si on y va, à part Ayers Rock et l'opéra que toi t'as visité?
Alors là, ouais. Alors, vous me posez une colle, parce qu'il y en a quand même beaucoup.
Un truc que toi, tu as vu, dernière... qui t'a vraiment plu, quoi.
Ouais, dernièrement, y a quoi ? Il y a un mois et demi, je suis donc, du coup, dans mon road trip sur la côte ouest. Je suis allé dans un parc national qui s'appelle Carrigini. Et c'est un énorme parc national avec énormément de gorges. Donc, ça fait un peu penser aux gorges qu'il y a aux États-Unis avec le Grand Canyon, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des crevasses dans lesquelles on peut se balader. Il y a des super marches avec des sources, avec des chutes d'eau, avec des piscines naturelles. Et ouais, j'y ai passé 4 jours. J'ai fait pratiquement toutes les marches possibles. Je pense que ouais, c'est une des choses dont lesquelles je me rappellerai.
Ça marche pas. Merci pour ce petit conseil, Rémi. Oui, vas-y.
Ouais, j'ai une petite question pour revenir un peu sur les animaux. On t'a posé la question s'il y avait des espèces protégées. Moi, je vais te poser la question inverse. Est-ce qu'il y a des espèces qui posent problème en Australie?
Alors, oui. D'ailleurs, c'est intéressant que tu poses la question. Parce que l'Australie, du coup, quand les colonisateurs sont venus, ils ont introduit des espèces qui n'existaient pas, hein, sur place. Donc ils ont introduit les chameaux, par exemple, parce qu'évidemment il y a un désert en plein milieu. Donc les chameaux, c'est super pour bosser dans le désert. Parce que sauf qu'une fois qu'ils ont plus besoin de chameaux, ils les ont laissés. Ils ont fait la même chose avec les chevaux, ils ont fait la même chose avec les ânes. Et en fait, tous ces animaux ont été laissés en liberté et se sont reproduits. Donc, dans certains coins de l'Australie, il y en a partout. Il y en a des milliers, milliers.
Ça a complètement détruit la biodiversité, quoi.
Ouais, ils sont multipliés, complètement multipliés. Et ils font des battues tous les ans pour pouvoir réduire la population. Pareil pour les lapins. Les lapins, ça se reproduit à une vitesse phénoménale. Donc, ils ont introduit, ils les ont laissés, et puis ils ne sont jamais posé la question de les chasser, et puis après, ils font des battues pour pouvoir réduire la population. Après, des animaux qui posent problème au niveau dangereux, y a des crocodiles en Australie.
Les requins aussi, non ?
Oui, il y a quand même pas mal de requins, mais c'est un peu comme les requins et les crocodiles, on sait qu'ils sont là. Quand il est dit qu'il faut pas aller se baigner, que c'est interdit d'aller se baigner, que c'est dangereux, faut juste faire en sorte, faut respecter ce genre de panneaux, parce que s'ils sont là, c'est pour une raison. Il n'y a pas eu de problème et d'accident grave dernièrement. Il y a quand même un voyageur qui a été tué par un crocodile, malheureusement, il y a quelques mois. Mais c'était parce qu'il est allé se baigner au mauvais endroit. C'était interdit, il y allait quand même. Apparemment, il était ivre. Donc, faut juste faire attention. Ces animaux sont là. Les requins sont là. Il y a des requins blancs. Des gros requins blancs, mais bon.
Des mégalodons.
Tout le monde sait qu'ils sont là. Et s'il est dit de ne pas aller dans certains endroits parce que ça peut être dangereux, il faut juste. Juste suivre les règles et faire en sorte de pas faire l'imbécile.
Est-ce que toi, t'as eu la chance, si on peut appeler ça une chance, de voir des requins ou des crocodiles ?
Alors, j'ai vu des crocodiles. J'ai malheureusement pas pu en voir dans leur habitat naturel. J'en ai vu à Darwin dans une réserve. Il y en a partout en liberté, oui, qui sont à l'état sauvage, quoi. Mais j'en ai pas vu à l'état sauvage. Des requins, j'en ai vu. J'en ai vu justement un ou deux il y a à peu près un mois de ça. On était sur une plage dans un parc national. On était sur une plage, il y avait une famille qui pêchait juste à côté de nous. Et une des personnes a attrapé un petit requin avec son hameçon, en fait. Parce que le requin était intéressé par le bout de poisson qu'il y avait au bout. Donc c'était un requin de récif qui devait faire à peu près un mètre de long, hein, pas plus. Parce que ça a attiré un plus gros requin qui lui a nagé après vraiment en bord de plage, quoi. Donc le pauvre petit requin a réussi à s'échapper, mais il a fini sur la plage, sur le côté, hors de l'eau. Et du coup, on va dire que je l'ai vu de près parce que je me suis rué sur lui et puis je l'ai attrapé et je l'ai remis dans l'eau en le poussant par la queue. Pour qu'il puisse repartir.
Ça marche. Et on finit sur ce bon acte et puis on enchaîne sur une pause musicale. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi et pourquoi ?
Oui, bien sûr. Alors, du coup, la première chanson était un peu récente. Donc, pour la deuxième, j'essaie de trouver quelque chose de old school. Donc, c'est Midnight Oil qui joue la chanson Beds Are Burning.
Très bien. Et on s'écoute ça tout de suite. We'll be right back.
Alors, c'était Midnight Oil, leur morceau Beds Are Burning, oui. Alors, on va reprendre. Quelles peuvent être les traditions du pays ?
Alors, les traditions du pays. C'est côté aborigène, puisque même si les aborigènes ont été un peu mis de côté, on va dire, pendant les siècle, c'est quand même une partie importante du pays maintenant, de l'histoire du pays, puisque c'est un pays jeune. Donc les traditions aborigènes essayent de ressortir un peu. C'est surtout via des événements qu'on essaie de les voir. Donc c'est pas des choses qu'on va faire, que tout le monde va faire en Australie, mais ils essayent de le ressortir un petit peu. C'est des chants et des danses, des fêtes. Après, tradition, sur ce que tout le monde va faire, je saurais pas trop. À part il y a le jour de la fête nationale, évidemment, qui est le 26 janvier, si je me trompe pas. J'étais même présent, normalement. Non, c'est tout ce à quoi je pense, vraiment.
Ça marche. Du coup, peut-être qu'il y a des traditions au niveau de la nourriture. On mange quoi en Australie?
Ah oui, ça c'est. Alors en Australie, on mange beaucoup de viande. Le barbecue, c'est quand même quelque chose qu'on fait souvent, que les Australiens font souvent, parce que c'est une façon de faire à manger et de cuire la viande qui est facile. Ils allument leur barbecue, ils mettent leur viande dessus et puis c'est réglé, quoi. Donc on mange du kangourou.
T'as déjà goûté le kangourou ?
Oui, j'ai goûté le kangourou. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout.
Il y a les saucissons de kangourou, nous, au brocante, souvent. Mais ça
pour continuer. Ah, vas-y.
Ils font beaucoup de steaks, beaucoup de burgers avec du kangourou.
Ouais, avec les grands élevages, surtout, qu'il doit y avoir.
Il y a aussi de l'ému, qui est une espèce d'autruche. Parce que ils ont un genre d'autruche qui vit pas mal, surtout dans le centre, dans le désert. Donc ça c'est pareil, ils en font des steaks. C'est de la viande en barbecue et du poisson évidemment, parce que on est quand même sur une île et 90% de la population, comme je vous disais avant, vit sur la côte, donc ce sont des bons pêcheurs.
Ça marche. Bah pareil justement, est-ce qu'il y a des sports populaires ou qui populaires qu'il n'y a peut-être pas en France aussi?
Alors bon, des sports populaires, il y a le rugby évidemment, hein, comme on a en France, on connaît les All Blacks de Nouvelle-Zélande et on connaît les Wallabies
d'Australie.
Après il y a le cricket. Ils jouent pas mal au cricket. C'est l'inspiration britannique, hein, donc. Comme l'Inde ou la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, ils jouent pas mal au cricket. Et il y a un sport qui joue ici, qui s'appelle le football australien, qui n'a rien à voir avec le football d'Europe. Hein. C'est un espèce de rugby où on peut taper en avant, on peut taper en arrière, on peut taper au pied, on peut taper à la main, parce qu'ils se font des passes en tapant dans le ballon avec la main. Le terrain est ovale. Doit y avoir 25 personnes par équipe, un truc comme ça. Ça court partout. Il y a 5 règles, si je me trompe pas. C'est assez compliqué. Hein. J'ai vu ça 2-3 fois à la télé. C'est très compliqué à comprendre. Mais voilà, c'est un sport très connu ici. Ils en sont fans. Ils en font des énormes événements. Et ouais, je pense que le sport numéro un, par exemple chez les jeunes, pratiqué chez les jeunes, en club, etc., ça doit être le football australien, surnommé ici le footy.
Ça marche. Bah, on va revenir un peu sur la notion de voyage. Est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu as des choses que tu fais en premier quand tu arrives dans un pays, comme par exemple, je sais pas, aller te baigner, aller visiter le vieux centre-ville, aller manger dans le premier restaurant? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimes faire quand tu arrives dans un pays?
Alors, les premières choses, malheureusement, hein, c'est l'administratif, hein, obligé. Voilà, on fait ça le premier jour et après c'est réglé. Et puis comme ça, on peut se concentrer sur les choses chouettes à faire. Donc comme tu dis, quand je suis arrivé à Sydney, je suis allé me baigner, manger, ouais, essayer de trouver un petit resto sympa. Et pour moi, ça a été le petit déj anglais. J'adore les petits déj anglais, le bacon avec les œufs, avec les haricots, avec les saucisses, avec les champignons, les tomates, etc. Voilà, pour moi c'est ça. Je vais me prendre un petit déj dans un coin sympa. Alors en plus, quand je l'ai fait à Sydney, j'étais face à la mer, donc
c'est bien.
C'est ce que je fais la plupart du temps.
J'essaye de leur trouver la photo que t'as envoyée en fait à tout le monde en France pour dire que t'étais bien arrivé. C'était justement ce petit déj.
Ah oui, c'est vrai.
Est-ce que c'est un petit peu comme en Angleterre avec le décalage? On mange à 17h le soir, on mange pas trop le midi, c'est plus un 4h. Est-ce que c'est comme ça?
Alors, ils mangent tôt, c'est vrai qu'ils mangent tôt le soir, les Australiens en général. Après, bon, pour les voyageurs, pour moi et pour d'autres, si tu veux aller au restaurant, oui, tu vas y aller plutôt que si tu allais en France. C'est-à-dire qu'à si tu vas au restaurant à 21h en France, 20h30, 21h, tu sais que tu vas être servi, que tu vas rester jusqu'à 23h au restaurant, il n'y a pas de problème. Ici, c'est un peu plus compliqué. Souvent, à partir de 20h30, 21h, ils disent non, on n'accepte plus, quoi. Bon, voilà, c'est juste que parce que ici, ils mangent plutôt entre 18h et 20h, quoi.
Là, on parle de l'Australie, mais est-ce qu'il y a d'autres voyages que tu aimerais faire, d'autres pays ou carrément d'autres continents?
Alors, pardon, ça a coupé, je ne vous ai pas entendu.
Là, on parle de l'Australie. Est-ce qu'il y a un autre pays que tu aimerais faire ou un autre continent, une île?
Ah oui, alors y en a énormément. Hein, malheureusement, enfin, je vous ai dit, hein, je suis tombé amoureux du voyage, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. En venant de France, on a la chance donc de pouvoir faire des visas vacances travail dans de nombreux pays. Et il y a, par exemple, en Amérique du Sud, moi j'aimerais aller visiter l'Amérique du Sud. Il y a des visas vacances travail qui sont possibles au Brésil, en Colombie, et notamment deux pays que j'aimerais vraiment visiter, qui sont le Chili et l'Argentine.
Tu es constamment en voyage ou t'as des périodes de pause?
Alors. J'ai commencé donc mon premier voyage a été c'était en Nouvelle-Zélande, donc j'ai commencé en septembre 2013. Donc j'ai fait Nouvelle-Zélande pendant un an. Ensuite je suis allé me balader sur les îles du Pacifique qui sont les îles Cook, Tahiti, enfin la Polynésie française pardon, et les îles Samoa. Et après, je suis rentré en France. Avant de venir en Australie, j'ai fait 11 mois. J'ai travaillé 11 mois en France. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer encore quand je vais revenir d'Australie. Je vais rentrer d'Australie au mois de, enfin, pour l'été prochain. Certainement passer quelques mois en France. Peut-être plus. Peut-être juste un mois. Je ne sais pas encore parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais je me vois rentrer en France de toute façon, faire un break et repartir après.
Quand tu rentres comme ça, justement, est-ce que le retour est parfois difficile de revenir en société française après de belles rencontres, d'avoir vu des beaux paysages, d'être sur un nuage en fait, et donc du coup de revenir à la réalité, est-ce que c'est parfois difficile ?
Alors, c'est pas facile, effectivement, hein. C'est pas toujours facile, parce que la vie a continué aussi en France, en fait. Voilà, comme tu disais, t'es un peu sur un nuage parce que... quand je suis parti à l'étranger la première fois, bah voilà, je suis revenu, j'ai retrouvé mes amis, ça y avait pas de problème, mais voilà, leur vie a continué, leur vie s'est pas arrêtée parce que moi je suis parti, et voilà, il y a des choses qui changent, des personnes qui changent, toi aussi tu changes, hein, avec le voyage, donc t'as plus les mêmes envies, tu t'as plus les mêmes intérêts, ou certains intérêts se sont renforcés. La famille, voilà, certaines choses peuvent arriver malheureusement, ou heureusement dans d'autres cas. Moi, quand je suis rentré en France, j'ai eu la chance de devenir tonton un mois après. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses qui facilitent, soit qui malheureusement rendent le retour difficile. Mais bon, bah, on essaye de retrouver un équilibre dans lequel tu te sens bien, et tant que toi tu te sens bien, en fin de compte. Que tu sois en France ou à l'étranger, ça change pas grand-chose.
Pour le coup, tu as tout stoppé parallèlement ou tu continues à côté à faire un truc quand tu reviens en France, ou tu attends juste de préparer ton voyage, ou même en...
Alors, moi, quand je vais rentrer en France, ça va être certainement voir la famille et les amis d'abord. Travailler, si je dois travailler, ce sera certainement secondaire. Je ne sais pas si ce sera préparer le voyage déjà ou pas, si j'aurai d'autres opportunités de travail en France, ou que je me dirais, bon, ben voilà, je veux travailler, je veux rester ici, je veux rester en France un an, deux ans, cinq ans, dix ans, je ne sais pas. Tout ça change en fin de compte. Je me projette pas trop parce que tu peux pas vraiment. Si je rentre l'été prochain, ce sera le mois de juillet, et c'est quand même assez loin en fin de compte.
Alors là, t'as dit que t'avais beaucoup voyagé, c'est dans quel pays que t'as trouvé que les filles étaient les plus belles? Et surtout, est-ce que les Australiennes, elles sont belles?
Alors, les filles. Il faut avouer que en Nouvelle-Zélande comme en Australie, qu'on le veuille ou non, les filles qui vivent là-bas viennent d'Europe à la base, hein.
Ouais.
Donc le type est européen, donc on va dire que les filles les plus belles, elles pourraient être européennes. Après, je suis allé à Tahiti, les Tahitiennes sont aussi de très belles femmes.
Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ton voyage, assez rigolote si possible?
Une anecdote sur moi, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Sur moi ou sur le pays en lui-même? Parce que sur le pays en lui-même, par exemple sur l'Australie, il y a certaines choses qu'on n'imaginait pas.
Bah vas-y, ouais,
ça peut être ça. Qui sont un peu
particulières. Par exemple, je vous ai dit qu'il y avait des chameaux en Australie. Croyez-le ou non, mais c'est véridique. L'Arabie Saoudite importe ses chameaux d'Australie.
Ok, donc
on imagine tous ces pays, les pays de l'Arabie Saoudite, etc., exportant ces chameaux. Et non, ils les importent d'ici. C'est-à-dire qu'ils les font venir d'Australie dans leur pays.
Ouais, bah c'est fou.
Ça marche. Bah écoute, l'émission touche à sa fin. Et on te remercie de nous avoir accordé cette petite émission. T'es un petit Christopher McCandless dans Into the Wild. Et puis on te remercie. Et puis passe une bonne soirée du coup, parce qu'il est tard en Australie.
Ouais, bon, il est pas si tard que ça. Il va être 22h maintenant.
par rapport en France. Ouais.
Il y a 6 heures d'écart avec la France.
Ça marche.
Oh, c'est pas si loin.
Mais bah écoutez, merci de m'avoir invité. C'est très agréable.
Bah de rien.
Et ouais.
C'était un plaisir de t'écouter.
Salut.
Salut.
Super.